Cette année-là, Marc avait un grand événement à fêter. Il allait avoir 40 ans en août. Mon anniversaire était le lendemain. J'allais en avoir 35. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas en faire trop et qu'il préférait qu'on parte quelque part. Ça me convenait. Nous avons opté pour un séjour de 4 nuits pour que je puisse garder mes congés annuels pour des vacances plus longues plus tard dans l'année. Incapable de choisir une destination, je suis allée dans la chambre et j'en ai rapporté une carte du monde et une petite boîte en métal. La carte se déchirait sur les bords et des particules de poussière se sont envolées lorsque je l'ai déroulée et posée sur le sol. Marc a posé les mains sur 2 coins et j'ai tenu le côté opposé. Ma mère avait collé cette carte sur le mur de ma chambre quand j'avais 7 ans. Elle m'avait parlé de tous les endroits merveilleux que nous visiterions lorsqu'elle aurait un meilleur emploi et un peu plus d'argent. Elle avait posé un paquet de punaises sur ma table de chevet et s'était assise sur mon lit. Il faut mettre une épingle sur la carte pour savoir où on est allé, pour ne pas retourner au même endroit. « Mais, maman, et si on veut retourner au même endroit ?» avais-je demandé. Elle avait secoué la tête en riant. « Mais pourquoi en aurais-tu envie, Cléo ? Il y a plus de 200 pays dans le monde et des milliers de villes !» J'ai ouvert le couvercle de la boîte et j'ai sorti une épingle couleur laiton. En la tendant à Marc, je lui ai dit que j'allais lui bander les yeux et faire tourner la carte plusieurs fois. L'endroit où il percerait la carte serait notre destination. La seule règle était que ça ne pouvait pas être un endroit où nous étions déjà allés. Je lui ai mis le bandeau et il s'est exécuté. Nous irions en Autriche. Pour son anniversaire, je lui ai acheté la montre Omega hors de prix qu'il convoitait depuis un certain temps. Même si j'étais à l'aise financièrement, Marc insistait pour payer la plupart des choses. Il me donnait de l'argent chaque semaine pour nos frais quotidiens, qui étaient minimes puisque je n'avais aucun emprunt. J'ai donc pensé qu'il méritait la montre. En voyant l'expression de son visage lorsqu'il a ouvert la boîte, le matin de son anniversaire, dans notre suite huppée d'un hôtel de Vienne, ça en valait la peine. Il m'a montré sa gratitude de la meilleure façon possible. Nous avons passé une journée merveilleuse à nous promener dans les rues de Vienne, en nous arrêtant pour prendre un café, manger un gâteau délicieux, boire du champagne et manger un autre gâteau encore plus délicieux. J'ai pleuré de rire en voyant l'air pétrifié de Marc sur l'une des plus anciennes grandes roues du monde, la Wiener Riesenrad. Je pensais qu'il plaisantait quand il m'avait dit qu'il avait le vertige. Nous avons dû aller boire une bière tout de suite après pour qu'il se calme. Le lendemain, c'était mon tour d'être gâtée. Comme d'habitude, il avait mis le paquet et m'avait présenté la boîte rouge de Cartier, désormais familière. Nichée dans le velours noir, il y avait une paire de clous en diamant qui étaient beaux à en couper le souffle. Je lui ai sauté dessus et l'ai étouffé de baisers, mes bras et mes jambes cramponnés à lui. « Merci, merci, merci !» ai-je répété encore et encore. J'ai arboré un sourire béat toute la journée et chaque fois que j'ai pu regarder mon reflet, mes yeux se sont arrêtés sur ces beautés qui reposaient sur mes lobes. Ai-je pensé à leur prix? Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Je savais que ça devait être de l'ordre de 2 000 ou 3 000 livres. Les rentrées et sorties d'argent de Marc me déroutaient. Il ne semblait pas travailler assez pour gagner l'argent qu'il dépensait. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre d'en manquer et il prenait visiblement beaucoup de plaisir à le jeter par les fenêtres. Je ne voulais pas que ça gâche nos vacances, mais je me suis dit qu'il fallait que je lui en parle. Quelques jours après notre retour, début septembre, Marc était à l'appartement affalé sur le canapé. J'étais dans la cuisine en train de préparer une salade quand il m'a appelé en me demandant de lui apporter des mouchoirs en papier car il saignait du nez. Ce n'était rien de grave et ça s'est vite arrêté une fois qu'il s'est pincé l'arête du nez. Il était sous traitement pour hypertension artérielle après avoir fait une petite crise cardiaque à 36 ans. Je lui ai dit que si ça se reproduisait, il devait prendre rendez-vous chez le médecin. Quelques semaines plus tard, nous étions sur le point de sortir faire des courses lorsque son nez a recommencé à saigner, mais beaucoup plus abondamment cette fois. Des feuilles d'essuie-tout et un pincement ferme ont réglé le problème. Je lui ai demandé s'il avait d'autres symptômes, mais il m'a répondu qu'il se sentait bien. Pour être honnête, il n'en avait pas l'air. Sa peau mate, habituellement d'un brun clair pendant les mois d'été, avait perdu son éclat et était devenue terne. C'est peut-être pour ça que les cernes sous ses yeux étaient si visibles. Depuis 2 semaines, il était plutôt taciturne et renfermé. Je lui ai demandé si quelque chose le préoccupait. Le travail? Harry? Ses parents? L'argent? Il m'a répondu « Cléo, tu ne me quitteras jamais, n'est-ce pas ?»« Merde, qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'inquiètes maintenant » ai-je dit sur un ton un peu agressif. « Réponds-moi » a-t-il supplié. Je n'allais clairement pas dire « Oui, je fantasme souvent là-dessus et je vais probablement te quitter à un moment donné. » « Bien sûr que non, espèce d'idiot, pas aujourd'hui en tout cas !» ai-je dit avec un sourire en coin. Je lui ai dit d'aller s'allonger dans la chambre pendant que je sortais faire les courses. J'avais vraiment besoin de 5 minutes et d'un café fort pour réfléchir à ce qui se passait. 1 heure, un expresso, un café au lait et un muffin au citron et au chocolat blanc plus tard, je n'avais pas mieux compris. Rien n'avait changé entre nous récemment. Bien qu'un peu plus silencieux, il était toujours aussi possessif, même si, étonnamment, il n'avait pas eu d'accès de violence. Pas de vaisselle cassée, pas de trous dans les portes, il ne m'avait pas non plus accusé d'avoir taillé une pipe au facteur. Était-il en manque? Était-il en plein sevrage? Est-ce que je gâchais ma vie à essayer de comprendre l'esprit d'un fou? La seule chose dont j'étais sûre à ce moment-là était que mes placards et mon réfrigérateur étaient vides et que je devais aller au supermarché. Il n'y a guère eu de changement dans son comportement dans les semaines qui ont suivi. Comme je m'y attendais, il n'a pas pris rendez-vous chez son généraliste. S'il l'avait fait, ça aurait peut-être évité que sa mère m'appelle le soir du 5 novembre pour m'avertir qu'il avait fait une crise cardiaque massive. J'étais de l'équipe du soir et je ne suis pas rentrée à la maison avant 22 heures. J'ai entendu le téléphone sonner lorsque j'ai tourné la clé de la porte d'entrée, mais je ne me suis pas précipitée, m'attendant à être accueillie par les mots habituels de mon petit ami paranoïaque. « T'étais où, bon sang ?» J'ai décroché à la dernière sonnerie. C'était Hélène, la mère de Marc. « Cléo ? Bonjour ma chérie. Marc a eu une crise cardiaque, il est en soins intensifs. » Vraiment. Juste comme ça. Comme si elle m'informait qu'il avait trébuché et s'était foulé la cheville. Ce n'était pas la peine que j'aille à l'hôpital à 7 heures tardive. La dernière chose dont les infirmières des soins intensifs avaient besoin, c'était des proches des patients qui se mettaient en travers du chemin et posaient des questions sans fin auxquelles elles ne pouvaient pas répondre. Tout ce qu'elles voulaient, c'était pouvoir faire leur travail sans être dérangées. Je savais que je ne pourrais pas dormir, donc je me suis allongée sur la couette sans même me changer. J'ai imaginé que j'entendais le téléphone sonner à 2 heures du matin et qu'on me disait qu'il était mort. Qu'est-ce que ça m'aurait fait? Est-ce que je me serais effondrée sur le sol en criant inlassablement son nom? Aurais-je été accablée par le chagrin, incapable de formuler une phrase? Aurais-je remercié Dieu que ce soit terminé et apprécié le sentiment de paix qui m'aurait envahi? Je ne le saurais jamais. Il n'y a pas eu de coup de téléphone à 2 heures du matin. J'ai attendu jusqu'à 4h30 pour me lever, me laver les dents et m'asperger le visage d'eau froide. À 4h45, toujours en uniforme, j'ai entamé les 5 kilomètres de marche pour me rendre à l'hôpital de Hammersmith. J'avais toujours marché rapidement et j'aurais pu y être en 30 minutes. Je me suis forcée à ralentir, à m'arrêter pour discuter avec le fleuriste qui installait son stand au coin de ma rue, à rallonger le trajet plutôt que de prendre des raccourcis, à m'arrêter prendre un café dans un pub de Fulham Road ouvert toute la nuit. Je suis arrivée à l'hôpital alors que l'obscurité laissait place à l'aube. J'ai pris les escaliers vers les soins intensifs, j'ai donné le nom de Marc et je suis entrée. Avant de me laisser le voir, l'infirmière m'a expliqué qu'il était stable et qu'il avait passé une bonne nuit. Ils attendaient de le transférer dans un autre hôpital pour lui poser un stent et si tout se passait comme prévu, il reviendrait dans le service de cardiologie pour sa convalescence. Dès qu'il m'a vue, un grand sourire a illuminé son visage pâle aux traits tirés. « Salut, chérie. » J'ai su, à ce moment-là, que s'il était mort, j'aurais été dévastée. Sa guérison a été étonnamment rapide. Son âge, sa force et le fait qu'il ne fumait pas jouaient en sa faveur, sans compter son déni total que quelque chose de grave lui était arrivé.